Bonjour à toutes et à tous, actualité oblige, je vais vous parler des virus pneumotropes communautaires hors grippe. Alors l'information est tirée du livre Le Pili, alors maladie infectieuse et tropicale, 27e édition, année 2020, édité au Collège des universitaires de maladies infectieuses et tropicales. C'est un livre qu'on connaît déjà depuis de nombreuses années. Les premières versions du Pili tenaient dans la poche. Aujourd'hui, c'est un livre qui fait quand même plus de 700 pages et qui est très très riche. Et en gros, c'est la Bible. Bible des médecins qui s'oriente vers les maladies infectieuses. Alors, donc, dans l'item 94, on parle des virus pneumotropes communautaires hors grippe. Il y a plusieurs chapitres. Il y a un chapitre sur le VRS, donc virus respiratoire syncytial. On le voit très souvent en pédiatrie. Alors, c'est intéressant parce que quand on voit VRS, normalement, systématiquement, on va chercher l'isolement. Il y a un autre type de virus, le métapneumovirus humain, donc HMPV. Puis un chapitre sur les syndromes respiratoires aigus liés au coronavirus. On a un chapitre sur les adénovirus, un chapitre sur les rhinovirus, un chapitre sur le bocavirus humain. Et puis, je vais tout de suite aller à l'essentiel. Après, on va faire un focus sur les virus de type coronavirus. Alors, je lis. Les virus respiratoires sont à l'origine d'épidémies hivernales fréquentes, avec pour certains, c'est-à-dire VRS et rhinovirus, une morbidité élevée, et pour d'autres, une morbi-mortalité élevée. Alors, dans la morbi-mortalité élevée, on parle de coronavirus et de SRAS. Alors, il y a MERS-CoV ou SARS-CoV. On verra ça en détail juste après. Les mesures de prévention sont importantes, basées sur l'hygiène des mains, les précautions complémentaires, c'est-à-dire gouttelettes respiratoires et la décontamination des surfaces inertes. La présentation clinique ne permet habituellement pas de les différencier les uns des autres. Dans certains cas, des co-infections virales ou virus-bactéries sont possibles. Concrètement, ça veut dire que le patient qui a un virus peut être surinfecté par une bactérie. Leur mise en évidence nécessite habituellement des techniques de biologie moléculaire. On parle de PCR, technique PCR dite quantitative, ou des techniques par immunofluorescence. Ces examens ne sont pas nécessaires en pratique courante, en dehors des situations particulières, notamment patients immunodéprimés, ou dans les études épidémiologiques. Alors, pour les pneumopathies sévères à MERS-CoV, un traitement associant interféron et ribavirine peut être discuté. Alors, pour les pneumopathies à VRS sévères de l'immunodéprimé, donc hémato, la ribavirine et ou la pavilizumab ou le pavilizumab sont indiqués. Alors, il faut savoir que tous les traitements qui se terminent par des zumabs sont extrêmement coûteux. On se demande pourquoi. Alors, pour les réactivations symptomatiques à adénovirus des patients immunodéprimés ou des patients donc hématologie, le recours au cidofovir est possible. Alors, c'est un traitement. Je ne le connais pas. Cidofovir, donc C-I-D-O-F-O-V-I-R. Alors, sur donc, tous ces virus dits pneumotropes, le VRS, donc là, c'est assez simple. Concrètement, le VRS appartient à la famille des paramyxoviridae, sous-famille des pneumovirinae. Donc, ça a été défini comme un pneumovirus. Il s'agit d'un virus à ARN. Asymétrie dite hélicoïdale et enveloppée, il existe deux groupes antigènes A et B. Concrètement, en fait, ça passe sauf chez les immunodéprimés, parce qu'il n'existe pas de preuve de la supériorité d'une stratégie par rapport à une autre. Ceci étant, des recommandations spécifiques ont été établies pour les patients en hémato. Voilà, donc là, on peut peut-être administrer un produit qui s'appelle la ribavirine à dose par voie orale ou intraveineuse. Prévention, d'abord les règles d'hygiène simples. Bon, on passe les métapneumovirus humains, parce que là on est sur une famille pareille, hein, de type paramyxoviridae et de sous-famille pneumovirinae, comme le VRS. Donc ça a été découvert en 2001. Il est le premier pathogène humain de genre métapneumovirus. Alors maintenant, on va passer sur ce qui nous concerne actuellement, qui est une espèce de crise sanitaire mondiale. Le syndrome respiratoire aigu lié au coronavirus. Alors, donc, il y a plusieurs chapitres, je vais les lire. Agent causal. Le coronavirus appartient donc à la famille des coronaviridae. C'est un virus sphérique enveloppé à ARN. Donc, acide ribonucléique. Chez l'homme, les souches de coronavirus, on parle de COV, étaient connues pour être responsables d'infections respiratoires bénignes. Donc c'était bénin. Alors en 2003, un nouveau coronavirus a été identifié. Il a été responsable d'un syndrome respiratoire aigu sévère, on parle de SRAS. Et le SRAS-COV, on l'appelle le SRAS-COV. Ce virus ne circule plus. Le SRAS-CoV ne circule plus. En 2012, a été identifié le virus responsable du Middle East Respiratory Syndrome, on parle de MERS, le MERS-CoV qui appartient au même groupe phylogénétique que le SRAS-CoV. Donc on est sur du 2012. Bon, on va parler maintenant d'épidémiologie. Alors c'est intéressant, hein. La pandémie dû au SRAS-CoV a démarré en Chine et a été diffusé rapidement dans 30 pays avant de s'interrompre en 3 mois grâce à des mesures de prévention et de contrôle drastiques, avec un total cumulé de 8098 cas. On n'est pas sur 99 ou 97, non, on a 8098 cas et 774 décès, soit 9,5% de décès notifiés par les pays affectés. Donc on est proche de 9,5 à près de 10, quoi. Alors, la pandémie due au MERS-CoV a démarré dans la péninsule arabique. L'épicentre de l'infection reste localisé dans cette zone, essentiellement en Arabie Saoudite. Les cas notifiés hors de ces régions ont tous séjourné dans la zone à risque dans les jours précédant la maladie et faisant partie d'une chaîne de transmission générée à partir d'un cas importé. Donc au 31 janvier 2019, le nombre total de cas de MERS-CoV confirmés en laboratoire et notifiés à l'OMS était donc de 2298 cas. Compliqué donc de 811 décès. On est sur une létalité observée de type 35,3%. La plus importante épidémie importée s'est développée en République de Corée en 2015 avec 185 cas identifiés liés à un seul cas importé. En France, 2 cas ont été diagnostiqués en mai 2013, dont le cas index importé et le cas secondaire nosocomial. L'infection des camélidés, c'est-à-dire dromadaires, chameaux, à partir de réservoirs principaux, donc probablement des chauves-souris, est à l'origine de cette émergence chez l'homme. Actuellement, il existe 2 modalités de transmission à l'homme, une transmission zoonotique à partir des camélidés, sécrétion, lait non pasteurisé, urine, viande crue, et une transmission interhumaine. Donc on est sur le SRAS-CoV, et surtout, qui a disparu, voilà, et puis le MERS-CoV. Alors maintenant on va aborder le chapitre clinique. Les infections à SRAS et MERS-CoV ont des périodes d'incubation variant de 2 à 11 jours. En moyenne, 6 jours, hein, donc la période d'incubation, avec une période d'incubation maximale fixée à 14 jours. Le SRAS-CoV a un tableau clinique qui comportait une fièvre dans plus de 95% des cas, un syndrome pseudo-grippal dans 30 à 75% des cas, des signes respiratoires dans 50 à 70% des cas, des signes digestifs dans 10 à 25% des cas. Pour le MERS-CoV, la prévalence des cas asymptomatiques parmi les patients infectés est entre 3 et 5%. Donc typiquement, la maladie MERS-CoV commence par de la fièvre et de la toux, des frissons, des maux de gorge, des arthralgies suivies par une dyspnée progressivement, avec progressant rapidement vers un tableau caractéristique de pneumonie. Des signes digestifs, c'est-à-dire diarrhée, douleur abdominale, vomissement, sont présents dans un tiers des cas. Dans les formes sévères, l'infection peut aboutir à un syndrome de détresse respiratoire aiguë et de défaillance multiviscérale. Donc, ce qui veut dire que, fondamentalement parlant, nous sommes sur une clinique qui est, relativement limitée, hein, fièvre, syndrome pseudo-grippal, des signes respiratoires, des signes digestifs. Alors, le diagnostic de MERS-CoV à la prise en charge ou à l'admission d'un patient repose d'abord sur le contexte épidémiologique de voyage en zone endémo-épidémique ou de contact avec un cas index. Alors, cas possible. Toute personne ayant voyagé ou séjourné dans un pays à risque, on a une liste actualisée sur les sites institutionnels, qui, au cours des 14 jours après son voyage, a présenté soit des signes de détresse respiratoire aiguë, SDR, des signes d'infection du parenchyme pulmonaire confirmés par des anomalies sur la radiographie de thorax avec fièvre supérieure ou égale à 38 degrés et de la toux. Donc ça, c'est un cas possible. Tout contact en famille soignant d'un cas possible ou confirmé ayant présenté une infection respiratoire aiguë, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa gravité, dans les 14 jours suivants, le dernier contact avec le cas possible confirmé pendant que ce dernier était malade. Alors, toute personne ayant travaillé ou ayant été hospitalisée dans un établissement hospitalier dans un de ces pays listés ayant présenté une infection respiratoire aiguë, quelle que soit sa gravité, dans les 14 jours suivant le dernier contact avec cet établissement. Toute personne ayant eu un contact proche avec un dromadaire ou un produit issu de l'animal, c'est-à-dire lait non pasteurisé, viande crue, urine, dans un des pays listés, ayant présenté une infection respiratoire aiguë, quelle que soit sa gravité, dans les 14 jours suivant ce contact. Voilà. Donc pour les personnes immunodéprimées ou présentant une pathologie chronique, il faut considérer également la survenue d'un syndrome fébrile avec diarrhée et ou tableau clinique sévère. Donc ça, c'est les cas possibles. Cas confirmés. Les cas confirmés, ce sont des cas possibles avec prélèvement indiquant la présence de MERS-CoV. La biologie sanguine, non spécifique, peut révéler l'existence d'une lymphopénie, d'une thrombopénie, d'une élévation des transaminases, d'une augmentation des LDH et des CPK. La radiographie pulmonaire peut être normale initialement. Les anomalies sont à prédominance interstitielle, focalisée ou diffuse. Le diagnostic de certitude repose sur l'identification du virus par PCR dans les sécrétions respiratoires ou dans les selles ou sur la sérologie. Les autres étiologies classiques de pneumopathie infectieuse doivent être systématiquement éliminées. Alors, le traitement. Dans l'impossibilité, l'impossibilité d'exclure initialement une origine bactérienne autorise l'administration d'un antibiotique, donc d'une antibiothérapie initiale ciblant une pneumopathie bactérienne dite communautaire. En cas d'hypoxie, une oxygénothérapie voire une ventilation assistée sont indiquées. L'interféron alpha ou bêta associé à la ribavirine avec ou sans les inhibiteurs de protéase lopinavir, ritonavir sont les traitements. les plus étudiés pour l'infection à MERS-CoV dans un modèle de cygne macaque, rhésus. Infecté par MERS-CoV, l'interféron administré en combinaison avec la ribavirine et ou l'opinavir a permis d'obtenir une réduction de la multiplication virale, un contrôle de la réponse de l'hôte et une amélioration du pronostic clinique. Cependant, plusieurs études rétrospectives de faible effectif étudiant des patients avec une atteinte sévère liée au MERS-CoV n'ont pas permis d'observer un bénéfice sur la mortalité. Les vaccins ciblant la protéine virale Spike, qui a un rôle important dans la pathogénèse virale, c'est-à-dire tropisme et entrée dans les cellules hôtes, sont en cours d'élaboration au stade préclinique. Alors, prévention, comment prévenir ? Les cas possibles doivent être isolés dès leur entrée dans l'hôpital et idéalement dès leur départ du domicile ou du lieu de prise en charge et pendant le transport vers l'hôpital. Les personnels et les visiteurs doivent porter des masques normes FFP2 en France, lunettes, gants et surblouse à usage unique. Le don de sang est non autorisé dans les 28 jours après le retour d'un pays qualifié à risque. Donc au-delà du syndrome respiratoire régulier ou des syndromes respiratoires aigus liés au coronavirus, il faut penser d'autres agents qui peuvent faire la même chose. Adénovirus, rhinovirus, bocavirus humain, c'est-à-dire HBOV. Bon, donc concrètement, en fait, ces pathologies existent depuis un certain temps déjà. La vraie question, c'est fondamentalement par rapport au nombre de cas qui existent actuellement, quelle est la différence par rapport aux autres maladies courantes ? Combien de décès dans différentes pathologies ? Et la question, elle est là, hein. Combien de décès dans d'autres pathologies ? Parce que aujourd'hui, on est bombardé sur le coronavirus qui sera vite jugulé, à mon sens. Mais la question, c'est, d'accord, il faut faire l'effort sur cette pathologie-là, mais il faudrait également faire les mêmes efforts sur les autres maladies. Quelle qu'elle soit, que ce soit le palu, qui tue quand même beaucoup de mamans, d'enfants et de personnes âgées. Et aujourd'hui, c'est quasiment considéré comme normal. Ça m'attriste. Voilà, donc on pourrait réfléchir sur qui fait quoi et quelles sont nos priorités. Est-ce qu'on se focalise sur des choses qui sont bien entendu importantes, mais en termes de mort santé publique, qu'est-ce qu'on fait des autres pathologies, quoi ? Est-ce que la santé a un prix ? C'est ça la question. Est-ce qu'on peut monétiser la santé ? C'est ça la vraie question. Que faire pour garantir une santé, quel que soit l'endroit où on se situe ? Est-ce qu'on laisse l'économie prendre le dessus sur notre état de santé ? Est-ce qu'il faut faire de la maladie un produit rentable ? C'est un peu ça le sujet.